Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous psycho pour un nouveau sujet consacré à la dépendance affective. Un vaste sujet. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de poser mes questions à Audrey Platania, psychologue du développement, directrice clinique et pédagogique des centres Cogitose. Audrey Platania, bonjour.
Bonjour Émilie, merci beaucoup de m'avoir de nouveau invitée.
Mais c'est un plaisir de vous recevoir pour traiter de ce sujet bien complexe. Alors tout d'abord, pour mieux comprendre, qu'est-ce que la dépendance affective ?
Alors, la dépendance affective, déjà, on peut la définir par son inverse, qui est l'autonomie affective, d'accord ? Donc, la dépendance affective, en fait, c'est ce besoin existentiel, viscéral, de se brancher au lien, de se brancher à l'autre pour avoir ce sentiment profond de sécurité dans notre vie. Donc, en fait, cette dépendance affective, elle est liée à une forme de conviction, de croyance profonde qu'on ne peut pas se débrouiller seul, qu'on ne peut pas être autonome, que sans l'autre, la vie va être trop difficile, trop complexe, que le monde est trop dangereux et que surtout, nous ne serons pas à la hauteur des enjeux de cette vie-là. Donc, dans la dépendance affective, il y a aussi une forme de manque profond de confiance en soi, où on a la sensation que l'autre sera de toute façon plus fort, plus apte, plus capable. Il y a un vrai sentiment d'inaptitude à vivre seul et à se confronter aux enjeux de la vie de manière autonome. Hein. Donc, ça peut vraiment se traduire par des personnes qui fuient, qui ont une forme de fuite de toute responsabilité. Je peux pas conduire seule, je peux pas aller au resto tout seul, je peux pas prendre une décision seule. Des personnes qui vont vraiment avoir cette quête perpétuelle de demande, de validation extérieure, hein, et puis aussi profondément ce besoin de présence, de réassurance. Est-ce que tu seras toujours là pour moi? Est-ce que tu seras toujours disponible? Hein, donc, c'est vrai qu'en corollaire, on a dans cette dépendance affective un profonde angoisse de séparation et une crainte hein, de l'abandon, de la perte du lien à l'autre, parce que ben, si tu t'éloignes, je vais m'anéantir, j'y arriverai plus tout seul. Hein. C'est vraiment ça, cette conviction au fond de la dépendance affective.
D'accord. Et qu'est-ce qui crée cette dépendance, justement ?
Alors, on parle de schéma, en fait. On parle de schéma d'être avec soi-même, d'être avec les autres, d'être avec le monde. Ces schémas-là trouvent leur origine dans ce qu'on appelle le style d'attachement. Donc, on peut vraiment prendre ce cadre-là pour penser les choses qui a un cadre théorique vraiment puissant, qui sont les théories d'attachement. Donc, quand on parle de théorie de l'attachement, on parle pas d'amour, hein. C'est pas j'ai pas été aimée par mes parents ou on m'a pas suffisamment aimée. C'est vraiment un style interactionnel. C'est comment la relation va se tisser entre moi et mes parents ou en tout cas mes caregivers, c'est-à-dire ceux qui sont là pour prendre soin de moi. Donc, la théorie de l'attachement, on peut la résumer presque à une question, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce que tu seras là pour entendre mes besoins émotionnels, entendre mes besoins affectifs, est-ce que tu seras disponible, est-ce que tu vas tenter d'y répondre le mieux que tu peux, hein? Donc ça, c'est la première question. Et après, il y a une deuxième attitude parentale qui est essentielle dans les styles d'attachement, c'est de laisser après s'éloigner l'enfant. Donc, il y a vraiment ce double jeu dans l'attachement qui est de, un, construire la base de sécurité et deux, permettre à l'enfant de faire l'expérience de la vie, de s'éloigner de cette base de sécurité tout en la maintenant disponible, mais de le laisser aller vers l'autonomie, vers l'exploration du monde.
Et savoir lui donner confiance aussi pour être autonome, parce qu'il sait qu'il a ce filet de sécurité-là, s'il revient, c'est un peu ça.
C'est ça. Et c'est ce qui permet de construire un sentiment juste fondamental, en fait, dans nos personnalités, qui est le sentiment de sécurité. C'est-à-dire à la fois d'avoir cette sécurité profonde qu'il y aura quelqu'un qui a un lien Et on est tous quelque part un peu dépendants hein, des liens aux autres. Hein, c'est ce qui crée cette interconnexion entre nous, mais aussi cette profonde conviction que je peux m'éloigner aussi de ce lien, que je peux le distancier pour aller de manière curieuse explorer les choses, explorer le monde. Voilà. Et c'est dans ce double mouvement que va se jouer l'autonomie affective. Hein. Donc, en fait, après, on a plusieurs profils, on peut avoir plusieurs dysfonctionnements de ce lien d'attachement qui va amener à plusieurs formes de dépendance affective.
D'accord. Mais la base, c'est vraiment le schéma parental, du coup, et cet attachement, la base, on va dire le socle global. J'imagine qu'après, il y a plusieurs cas de figure.
Ouais.
On a dit que c'était complexe comme sujet.
Hein. Ouais, c'est complexe. C'est complexe parce que y a en effet des schémas préférentiels, c'est-à-dire qui vont s'activer en vous et qui sont très archaïques, donc très, très liés en effet à des schémas précoces au niveau de votre lien à vos parents. Mais après, et heureusement, on a une plasticité qui fait qu'on va construire d'autres schémas avec d'autres personnes et on va disposer en fait de différents types de schémas d'attachement.
D'accord.
Et selon la personne, selon le contexte, selon la situation, on le sent d'ailleurs, hein, on va se retrouver soit dans des schémas où, bon, où on se sent bien, on se sent en sécurité, et un jour, on va rencontrer une autre personne et on va pas se sentir à l'aise, on va se sentir justement dans cette dépendance affective. Voilà, parce qu'en fait, on a à disposition plusieurs schémas, même si on en a des préférentiels, des qui vont s'activer de manière plus automatique, des schémas plus archaïques. Voilà.
D'accord.
Donc, dans la dépendance affective, si je poursuis sur notre sujet, la dépendance affective, elle peut être du coup la conséquence de plusieurs types de dysfonctionnements dans ces liens d'attachement. Soit, en effet, on a des parents qui ont eu eux-mêmes du mal à répondre à nos besoins affectifs. Donc, du coup, c'est la base de sécurité qui est fragile. Donc, en fait, on n'est jamais sûr de cette sécurité affective parce que le parent a été lui-même pris par une dépression, des carences, des défaillances, des préoccupations qui font qu'il n'est pas vraiment présent aux besoins émotionnels. Des parents qui peuvent être dans une forme d'attente, d'exigence parentale trop importante par rapport à l'enfant. Et là, le message, c'est plus du type pour que je sois là, il faut que tu sois comme ça. Donc, du coup, on attend quelque chose comme je ne peux pas être moi-même, il faut que je me transforme, il faut que je sois de telle et telle manière pour avoir la sécurité affective, hein, donc quelque chose lié plus à l'estime de soi et à nos parts de personnalité qu'on va transformer quelque part pour essayer d'avoir ce lien affectif. Donc ça, c'est des dysfonctionnements plus liés à des failles au niveau de notre base de sécurité. Et puis après, il faut avoir toute une cohorte de personnes qui ont une base de sécurité solide, on va dire, qui disent d'ailleurs qu'ils ont une enfance heureuse, qu'ils ont un lien très fort avec leurs parents, que tout s'est bien passé avec leurs parents, et qui pourtant sont dans cette impossibilité de s'éloigner de cette base affective. Ils sont dans un besoin constant de réassurance, de collage à la base affective.
Pas vouloir quitter le cocon ou c'est encore autre chose
Oui, alors ça peut être ça en effet. Donc là, on est plus dans des parents finalement qui sont eux-mêmes insécures et qui voient le monde comme trop menaçant, trop dangereux et qui, de manière parfois très subtile, hein, souvent très subtile, dès que l'enfant va s'éloigner un petit peu, va prendre un peu d'autonomie, on a peur, on est insécure, donc on va prendre les décisions à sa place, on va devancer les besoins de l'enfant, on va anticiper, on va faire des choix à sa place, on va le conseiller parce que non, tu devrais pas faire ça parce que c'est trop risqué, moi à ta place je ferais ça. Enfin,
il ne transmet plus l'autonomie dont il a besoin en fait. Hein,
voilà, l'autonomie et cette profonde confiance en la vie. en fait. Mmh. C'est trois niveaux de confiance. Hein. C'est la confiance en les autres. Je serai toujours là pour toi. La confiance en soi. Je serai toujours là pour toi, quelle que soit la personne que tu sois. Et ouais. La confiance en la vie. Tu peux aller vers la vie parce que aussi, la vie est pleine de plaisir. Oui, c'est une prise de risque. Oui, c'est dangereux. Oui, tu vas avoir mal. Oui, tu vas te casser la figure. Mais en fait, ça vaut le coup.
C'est la vie.
Voilà. Donc, il y a dans la sécurité affective, dans cette autonomie affective, d'insuffler à l'enfant ces trois niveaux de confiance. Mmh. Et selon la difficulté parentale ou l'insécurité parentale, ben, ça va être une de ces trois confiances qui va être blessée et qui va créer une crispation, une rétention qui va nous empêcher d'être vraiment, de nous sentir libres, autonomes, capables, aptes d'aller faire nos expériences et de nous débrouiller tout seuls.
Ouais, c'est très intéressant ces trois niveaux. Et c'est vrai que le niveau 2 interpelle. C'est vrai que de donner de la confiance en soi, c'est-à-dire je t'aime, peu importe la manière dont tu es, je t'aime, c'est ben voilà, c'est aussi l'amour inconditionnel. C'est vrai que c'est important. C'est pas aux parents de dire je t'aime si tu es comme ça. C'est non, c'est l'inverse qui doit se produire. C'est vraiment trois niveaux. Oui, ça valait le coup de souligner.
Bon, ouais. Oui. Pardon, Amélie, mais c'est vrai que c'est très subtil parce que c'est pas forcément des parents qui disent il faut que mon enfant soit comme ça.
Oui, c'est pas mal faire non plus.
C'est pas caricaturé, c'est beaucoup plus nuancé et subtil. Mmh. Que ça. En fait, c'est toute la possibilité qu'a le parent d'accueillir les différents niveaux émotionnels de l'enfant. Souvent, finalement, on a ce genre de réponse de manière automatique. Oh ben tu pleures, mais non, mais c'est pas grave. Mais pourquoi tu pleures? Mais il y a pas de raison d'avoir peur. Oh mais tu es pas beau quand tu es en colère.
Si. Ouais, il y a forcément une raison. Enfin, l'enfant il ressent forcément quelque chose. Faut aller écouter voilà, cette émotion.
Il ressent le fait que selon ses registres émotionnels, il n'a pas le droit, quelque part, d'exprimer ouais. certains registres émotionnels parce que ben là, on n'est pas satisfait de lui. Mmh. C'est tout ça l'enjeu. C'est pas tant « je veux que tu sois un bon élève, je veux que tu sois habillé comme ça », c'est pas ça. C'est plus au niveau de l'accueil de l'émotion de l'enfant où parfois, le parent a du mal avec les émotions désagréables. Hein, on ne parle pas d'émotions négative, mais du coup dans cette difficulté d'accueillir les émotions plus difficiles à contenir, on renvoie le message que là, non, c'est pas acceptable, ça ne se fait pas, tu es pleurnichard, tu es pas courageux, tu es et on est dans cette difficulté à donner cette profonde confiance en j'ai le droit d'exprimer, d'être, de ressentir tout ce que je suis dans mes forces et dans mes vulnérabilités aussi.
Ouais, c'est très important. Du coup, si on peut donner un conseil, hein, c'est d'être vraiment à l'écoute. C'est que si l'enfant émet une émotion, il faut l'écouter, il faut savoir l'entendre et peut-être y répondre au mieux, enfin adresser au mieux, en tout cas l'inquiétude, c'est qu'il y a forcément quelque chose. Si on peut donner un petit conseil pour accompagner son enfant.
Bah, c'est ça toute l'acrobatie, c'est de pouvoir porter les limites à un enfant tout en en étant dans l'écoute et dans le respect de ses émotions. Donc, il ne s'agit pas de ok, t'es en colère et t'as le droit de faire tout ce que tu veux parce que t'es en colère, donc du coup je respecte ta colère, mais de poser des limites, de poser un cadre tout en n'étant jamais dans une forme de dévalorisation ou de dénigrement de ce qu'il peut ressentir.
Oui, c'est important. Merci. Alors, pour parler des conséquences de la dépendance affective, vous avez évoqué tout à l'heure la demande de validation. Je pense que c'est un gros sujet. Quelles sont les autres conséquences, en fait, de la dépendance affective? Si on devait en citer vraiment les grandes dans lesquelles des personnes peuvent se retrouver.
En fait, cette difficulté, cette insécurité affective, elle peut amener vraiment plusieurs profils parce que l'enfant va, du coup, s'ajuster et se construire autour de ça. Donc, on peut en effet avoir des formes de profils où on va être totalement, constamment dans la demande de validation. Donc là, on qualifie souvent ces personnes de « il n'a pas de personnalité ». Parce que ce sont des personnes qui sont complètement collées et dans l'imitation de l'autre, parce qu'ils ont la sensation qu'ils n'existent pas, au-delà du lien à l'autre. Donc, j'ai les mêmes opinions, je m'habille pareil, je me coiffe pareil, quelque chose de très lissé avec une forme d'anxiété sociale très forte, de timidité, de fuite de l'autre et de besoin d'être dans le collage pour être rassuré. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut avoir le profil complètement inverse. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle les
dépendants. C'est facile à déceler.
Ouais, parce que vous pouvez avoir ce qu'on appelle les dépendants masqués, qui surcompensent leur dépendance affective en se montrant continuellement indépendant. Moi, je me débrouille tout seul, j'ai besoin de personne, je demande jamais de l'aide, c'est insupportable, de toute façon, on peut compter que sur soi-même dans la vie. Et ça, en fait, ça signe aussi une vraie dépendance affective qui est compensée par complètement l'inverse sur le plan comportemental. Mais il faut pas s'y leurrer parce qu'en fait, ces personnes-là, au fond d'elles, ont tout le temps peur aussi. Elles ont tout le temps peur de pas être à la hauteur, d'être inaptes, il y a ce sentiment d'imposture d'ailleurs de jamais être vraiment légitime donc ça peut être ça aussi. Ça peut être des personnes aussi qui sont dans une forme de contrôle beaucoup de ce qu'elles vont renvoyer aux autres. Donc ça, les dépendants un peu contrôlants, on va dire. Donc c'est plus si je suis le plus fort, si je suis la plus belle, si je suis toujours serviable, si je suis toujours généreuse, si je te donne tout, en retour, tu vas me donner aussi.
Ah tout. Oui.
Vous voyez, il peut y avoir ce profil-là aussi de personnes qui sont dans cette avidité en fait de perfection dans la relation à l'autre, mais en fait dans cette intention, on va dire affective profonde, d'avoir le retour et dans cette déception un peu continuelle que finalement c'est toujours décevant les autres parce que ils nous donnent jamais à la hauteur que ce que nous on est capable de donner.
Ouais.
Vous voyez, donc il y a vraiment c'est difficile parce que la dépendance affective c'est la blessure au fond et puis après il y a tout ce qu'on va mettre en place sur le plan de la personnalité pour tenter de la masquer, pour tenter de la compenser, pour tenter de faire avec et de survivre à cette dépendance-là. Donc, il peut y avoir plein de tableaux différents.
D'accord. Dans la relation de couple, parce qu'on se dit, voilà, forcément, il y a cet attachement-là, mais dans la relation de couple, comment est-ce qu'on distingue l'amour de la dépendance affective? Qu'est-ce qui doit un petit peu mettre la puce à l'oreille en disant, là, c'est quand même... fort, quoi. Il y a quelque chose un petit peu au-delà de l'amour.
Mais en fait, ça n'a rien à voir avec l'amour. C'est vraiment le style d'attachement. Donc, c'est la manière, c'est la demande que vous formulez à l'autre et le besoin que vous ressentez dans la relation. C'est pas le sentiment amoureux. On peut être très amoureux ou pas du tout amoureux d'ailleurs, mais être dans ce besoin constant de demander à l'autre de nous rassurer.
Une validation,
oui. Une validation. Donc, ça peut être des personnes qui ont besoin de se référer continuellement à leur compagnon pour prendre des décisions, pour faire des choix, pour gérer leur budget, dans une forme vraiment de dépendance quotidienne, en fait, pour gérer leur vie. Donc, on sent bien la position infantile hein, dans la dépendance affective à ce niveau-là. Des personnes, évidemment, qui peuvent être dans une forme de demande de présence continuelle et de cette impossibilité à sentir l'éloignement ou la distanciation, même quand elle est presque fantasmée. C'est-à-dire que parfois, l'autre, il est complètement là, mais au bout du 50e message par jour, c'est difficile et y a une forme d'impossibilité à être, enfin, on n'est jamais rassasié, en fait, de cette demande de lien et de présence. Donc, la jalousie évidemment, d'avoir toujours peur que l'autre s'éloigne, nous abandonne, qu'il aille trouver mieux ailleurs. Enfin, il y a plein de signaux, hein, ce besoin d'être valorisé, ce besoin d'être encouragé, redis-moi que je suis la personne la plus formidable et que voilà.
C'est un peu comme une addiction finalement quand on dit que oui, on a peur de manquer en fait.
Oui. Oui, complètement, complètement. Il y a une forme d'addiction parce qu'il y a une forme de compulsion. C'est compulsif. Vous voyez, on est dans cette quête de sécurité de manière compulsive. Là encore, hein, c'est une position assez infantile de pas pouvoir patienter, de pas pouvoir attendre, de pas pouvoir supporter la frustration. Donne-moi vite, rassure-moi vite, parce que là, si tu me rassures pas, je vais m'anéantir. Enfin, cette sensation qu'on va s'effondrer sur le plan interne si l'autre ne nous donne pas cette sécurité. Donc, il y a vraiment, faut pas confondre le besoin affectif et l'amour et le sentiment amoureux. Ça a rien à voir.
D'accord. Dans les autres relations de type travail ou encore amitié, alors j'imagine que le travail, pareil, c'est la validation, en demande de validation perpétuelle du manager, j'imagine quelque chose dans ce genre-là.
Oui, ou encore une fois, à l'inverse, hein. J'ai besoin de personne, je travaille seule, de toute façon, je ferai mieux moi tout seul parce que les autres, ils sont inconsistants, etc. Mais j'ai tout le temps peur de mal faire. En contrepartie, vous voyez.
Donc, faut se battre avec cette dualité aussi à l'intérieur quand on est dépendant affectif, du coup.
C'est ça. Faut vraiment comprendre que la dépendance affective, c'est, enfin, ou l'autonomie affective, oui, c'est le juste dosage entre le fait d'être viscéralement conscient qu'on a besoin des autres, que ce lien-là, on en a besoin, parce que vivre sans les autres, ben, on sait aujourd'hui que ça rend fou, hein, d'ailleurs, que les gens qui n'ont aucun lien ont à un moment donné des idées délirantes, hein, donc on est tous dans la dépendance, on a tous besoin des autres, mais on a tous aussi cette autonomie et cette possibilité de se débrouiller seul, d'être à la hauteur, ou en tout cas d'être capable de se débrouiller seul. Donc c'est un juste dosage, toujours, même en amitié, c'est supporté, par exemple, que notre ami puisse faire une soirée sans nous inviter.
Oui, c'est ça.
C'est supporté de ne pas être invité à une soirée sans le vivre comme un abandon, c'est plein de petits détails. La dépendance affective, c'est tout le temps là, c'est tout le temps dans notre quotidien, à la fois dans notre couple, à la fois avec nos amis, à la fois dans le travail. C'est une manière d'être en relation avec les autres, donc c'est dans toutes les relations.
Ah oui, un peu comme un funambule, du coup, voilà, qui se bat entre ses besoins et puis voilà ce dont il souffre, parce que finalement ça reste quand même une souffrance. Et comment sortir de la dépendance affective? Parce que c'est possible, rassurez-nous.
bien sûr que c'est possible. Alors, je pense qu'il y a déjà un niveau de, comme dans tout en psychologie, un niveau de prise de conscience de ce qu'on appelle défusionner avec ces schémas de pensée et avec ces émotions pour pouvoir les observer et pouvoir les regarder, nous amener toujours dans les mêmes répétitions, dans les
schémas. Ouais.
Les schémas. Donc, il y a tout ce travail de défusion, c'est-à-dire de mise à distance pour se regarder fonctionner et prendre conscience de et après toute la question va être de bien poser des limites, de bien poser les limites avec les autres et envers soi-même, et cette possibilité de freiner dans ce besoin compulsif. Dans ce besoin violent, hein, de vite réponds-moi, vite aide-moi, vite conseille-moi, vite rassure-moi, de pouvoir prendre une grande respiration et pouvoir différer, voyez, de pouvoir passer de ce besoin d'immédiateté à une réponse plus différée de ce besoin-là, sans être dans « je compense ailleurs hein, », ouais. Mais d'être dans ouais, cette possibilité. Et puis, après, de se donner des petits défis, de se poser des petits objectifs, de se dire, bon, par ce qu'on appelle la technique des petits pas. Allez, bah, par exemple, là, je vais prendre ma voiture tout seul et je vais aller faire les courses au casino. Il est pas loin, je vais y aller, je vais le faire. Vous voyez, de se faire des petits challenges parce que il y a que en passant.
Des petits entraînements en fait qu'on se fait, et puis après ça deviendra des automates, enfin ils deviendront des automatismes, pardon, à force d'entraînement, c'est ça, des petits challenges.
Oui, c'est ça, c'est qu'il faut passer à l'acte quelque part, parce qu'il y a une forme d'enfermement dans la dépendance affective. On a la sensation continuellement qu'on a besoin de la réassurance de l'autre pour pouvoir fonctionner, mais quand l'autre nous le donne, en fait il confirme cette croyance. Donc du coup, il renforce le fait qu'on se dise, ah ben ouais, ben heureusement qu'il était là. Sinon, j'aurais pas pris la bonne décision. Sinon, j'aurais pas pu, etc.
C'est certain que ce moment-là que du coup, on rentre alors dans une spirale dans laquelle il est difficile de sortir.
C'est ça. Et d'où le fait aussi qu'en face, c'est important d'avoir cette base de sécurité et d'avoir des personnes qui vont pas répondre de manière non plus automatique à nos demandes, et que quand vous êtes en lien avec quelqu'un qui est dans cette dépendance affective, bah dites-vous qu'au plus vous allez donner, au plus en fait vous allez nourrir ce cercle vicieux et ce cercle d'enfermement en fait de la dépendance. Donc ça veut pas dire non plus de lui dire bah débrouille-toi tout seul, parce que c'est trop violent aussi, et ça c'est trop angoissant. Voilà, mais c'est de pouvoir dire ben, qu'est-ce que tu en penses toi, qu'est-ce que tu ferais toi, enfin d'être dans cette forme de je vais pas répondre, mais je vais t'amener à réfléchir par toi-même. C'est de d'être autonome, quoi.
D'accord, merci. Alors du coup, ce que vous suggérez effectivement, donc c'est cette prise de recul là, de se dire voilà, là je note qu'il y a telle et telle difficulté, je manque d'autonomie, j'ai besoin tout le temps d'une validation. C'est un peu ça, hein, d'arriver à se rendre compte soi-même. C'est le premier pas vers
que des croyances. Ce ne sont que des croyances. Voilà, ce ne sont que des schémas qu'on a petit à petit engrammés à l'intérieur de soi et que l'on prend pour des vérités et qui sont intimement liés à ce sentiment d'insécurité, mais qu'en réalité, on est comme tous les êtres humains capables d'eux et que on a aussi des ressources qui nous permettent d'être adulte, en fait, de dépasser cette position d'enfant dans le besoin, dans l'attente de l'autre, et qu'on est capable de supporter et de faire par soi-même.
Eh bien, merci beaucoup, Audrey Platania, de nous avoir éclairci sur ce sujet-là. Très intéressant, très complexe, hein, on l'a évoqué. Et puis surtout, bah, voilà, vous avez donné les pistes pour les personnes qui se sentent peut-être en souffrance ou qui ressentent des difficultés en tous les cas. Et si bien sûr, on ressent un mal-être ou qu'on ressent des difficultés justement par rapport à nos relations, il ne faut pas hésiter à se rapprocher d'un professionnel qui pourra un petit peu aiguiller voilà, sur ce qu'il faut. Faudrait faire ou améliorer ou donner ce petit genre d'exercice. Mais en tous les cas, ne pas hésiter à se rapprocher d'un professionnel, puisqu'il ne faut pas rester tout simplement seul face à une souffrance. Audrey Platania, comment peut-on vous contacter?
Bien, je travaille au centre Cogiteuse. Donc, on est des psychologues et des neuropsychologues qui travaillent ensemble hein, autour de la psychologie pour les enfants, les ados, les adultes. Donc, via le site internet, vous trouverez tous les renseignements pour nous contacter. Voilà, s'il y a un dernier conseil sur le plan thérapeutique, c'est vraiment important d'à la fois, bien sûr, éclairer les origines, comme on vient d'en parler. C'est vrai que ça s'engramme dans des choses qui sont très anciennes, mais c'est important aussi de dépasser ce passé-là pour aller trouver des solutions vraiment pratiques et concrètes dans le présent. Donc, d'avoir des styles thérapeutiques qui soit à la fois dans la compréhension, dans la mise en sens de comment j'en suis arrivée là, mais maintenant que j'en suis là, comment je peux faire pour, hein, donc d'être vraiment dans cette double intention.
Oui, du coup, c'est vraiment un travail que vous faites avec, avec la personne qui vient vous voir, et vous avez toutes les clés, hein, vous venez de le dire, pour aider les personnes en souffrance à aller de l'avant, à devenir des adultes tout à fait épanouis dans leur vie personnelle et professionnelle, du coup. Eh bien, merci beaucoup. Bien sûr, toutes les informations pour contacter Audrey Platina ou l'un des centres Cogitos dans le descriptif de la vidéo. Un grand merci à nouveau.
Merci, Émilie. Merci, c'est toujours un plaisir.
Et merci à toutes et à tous. À très bientôt.
Au revoir.